Bonjour Monsieur Péchanski, je vous remercie au nom de l'ensemble de l'équipe du CN2R d'avoir accepté de participer à cette série de podcasts au sujet du procès des attentats du 13 novembre 2015. L'objectif de cette série, c'est de fournir des éclairages précis et complémentaires qui permettent une meilleure compréhension des enjeux du procès, à la fois pour les victimes, les proches, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. La thématique que nous abordons aujourd'hui avec vous, c'est celle de la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Vous consacrez une grande part de vos travaux à cette thématique. Nous allons voir comment vos recherches peuvent nourrir la compréhension du procès en termes de construction et de retombées mémorielles.
Je suis Denis Péchanski, je suis directeur de recherche au CNRS, plutôt spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et depuis la fin des années 2000, je me suis plus polarisé sur les questions de mémoire. D'abord aux États-Unis, à New York, ensuite en lançant un équipement d'excellence que j'ai obtenu dans la première phase sur l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Et quelques années plus tard, en 2015, novembre 2015, avec mon collègue et complice neuropsychologue Francis Eustache, on a décidé de se lancer dans un très vaste programme sur la mémoire des attentats du 13 novembre. Et ça partait tout cela d'une conviction, c'est qu'il était impossible de comprendre la mémoire individuelle pleinement si on ne prenait pas en compte la mémoire collective, et qu'à l'inverse, pour comprendre pleinement la mémoire collective, fallait prendre en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. C'était le postulat de départ quand j'ai lancé mes premiers travaux à New York en 2008-2009, et ça a été comme un fil conducteur jusqu'à ce travail sur le 13 novembre.
Ce procès et ce lien entre temporalité, événement et mémorialisation, avant la tenue du procès qui s'est ouvert en septembre dernier, quel était l'état de la question mémorielle à la fois individuelle et collective ?
Alors l'intérêt avec le programme que nous avons lancé, c'est que nous essayons de suivre la construction de la mémoire individuelle et de la mémoire collective des attentats terroristes du 13 novembre sur 10 ans. Donc on avait fait une première phase en 2016, une deuxième phase en 2018, et l'essentiel de la troisième phase s'est déroulé dans la contemporanéité du procès, entre septembre et, en gros, pour l'essentiel, fin janvier 2022. Donc, l'intérêt, c'est que en ayant ce corpus de centaines d'entretiens, et en particulier de centaines d'entretiens de personnes qui ont été interviewées les trois fois, on peut voir, effectivement, si on note un point de bascule à partir de la phase 3, donc à l'automne 2021. Et de la même façon, en parallèle, on interroge un échantillon représentatif de la société française grâce au CREDOC, qui est l'un des 30 partenaires du programme, ce qui nous permet aussi de voir dans la société française, dans un échantillon représentatif de la société française, comment évolue en quelque sorte la mémoire collective. Alors sur ce dernier point, on n'a pas encore des éléments décisifs, mais on a des indicateurs à travers les déjà quelques 900 témoignages qu'on a recueillis en 2021, début 2022. Et ce qu'on repère, et du point de vue, alors là, intuitivement, je dirais, c'est un impact très important du procès. Un impact qui se traduit par une sorte de construction d'un grand récit partagé. Dans notre programme, nous sollicitons des personnes qui étaient directement exposées, ce qu'on appelle le cercle 1, les rescapés, les témoins, les intervenants, policiers, médecins, politiques, magistrats, et les parents endeuillés, ça c'est le cercle 1. Mais aussi le cercle 2, les autres personnes des quartiers concernés, le 10e, le 11e arrondissement, un but du 12e, et puis Saint-Denis, le cercle 3, le reste de la région parisienne, et le cercle 4 avec trois villes de province. Donc on a les répercussions du plus proche au plus lointain. Et je m'arrêterai sur un point, c'est que les récits des gens les plus éloignés, cercle 3, cercle 4, sont beaucoup plus riches qu'ils ne l'étaient dans les phases 1 et 2. On sent que, évidemment, c'est nourri de ce qui s'est passé au procès et de l'accompagnement médiatique énorme qu'il y a eu et qu'il y a autour du procès. Mémoire individuelle, mémoire collective, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est quand même extraordinaire parce que les journalistes qui accompagnent le procès, et on sait qu'ils font un boulot exceptionnel, et ça a un énorme impact, enfin, il y en a dans tous les journaux, dans tous les médias, ils s'appuient sur quoi? Sur des témoignages individuels, de rescapés, de policiers, de pompiers, de parents endeuillés. Ils s'appuient sur les politiques, ils s'appuient sur des témoignages individuels pour construire un récit qui est d'ailleurs très commun à l'ensemble des journalistes et qui, parce qu'il diffuse énormément dans la société française, va impacter sur les mémoires individuelles des citoyens français, au-delà de nos propres témoins, bien entendu, mais de tous les citoyens français. C'est-à-dire que l'hypothèse qu'on a actuellement, qu'il faudra vérifier, c'est que manifestement, se construit une mémoire collective du 13 novembre qui est beaucoup plus unifiée, beaucoup plus cohérente que celle qu'on pouvait repérer en 2016 et en 2018.
Est-ce que dans la constitution de ce grand récit, vous avez des points de comparaison avec des attentats qui ont marqué les dernières décennies? Je pense bien sûr au 11 septembre 2001.
La situation est évidemment différente avec le 11 septembre, pour une raison simple. C'est que en France, à la différence des États-Unis, on a décidé d'organiser un procès. Aux États-Unis, l'acte de résilience, en quelque sorte, pour la société américaine, ça a été l'exécution de Ben Laden. Pas de procès, pas d'enquête, on se retrouve avec une exacerbation des thématiques complotistes autour du 11 septembre. Mais on voit bien aussi qu'en France, c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a un procès. Parce que ce procès a été précédé d'une enquête judiciaire et policière absolument exceptionnelle. Il y a 1 million de documents qui ont été mobilisés et qui sont à l'audience. On a le déroulé même du procès avec les témoignages. Il y a des avocats de la défense qui peuvent remettre en cause les pièces du dossier et les affirmations du dossier. Donc il y a un environnement démocratique dans ce procès qui me semble tout à fait exemplaire. Ce qui fait que finalement, dans cette histoire, il y a quelques questions qui restent avec des points d'interrogation, mais globalement, c'est comme une sorte d'illustration de la victoire de la démocratie sur la barbarie. On a voulu attaquer le pays sur ses fondements mêmes. Eh bien, c'est fort de ses fondements que le pays réagit. Et c'est une illustration avec ce procès qui respecte strictement les droits de la défense, comme il respecte bien sûr les droits des parties civiles.
Et cette victoire de la démocratie, elle repose aussi sur le témoignage des victimes. On parle souvent d'une sorte d'injonction à la visibilité au sein de notre société. Et finalement, est-ce que participer au procès et raconter ce qui a pu se passer, est-ce que c'est nécessaire au façonnage de la mémoire individuelle et collective?
Je ne peux pas répondre précisément à une question sur l'impact du procès sur toutes les victimes. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? L'impression que j'ai, que ce soit les rescapés ou les parents endeuillés ou ceux qui sont intervenus, c'est que ça représente une étape très importante. C'est que c'est dur, et en particulier c'est très dur de réécouter les témoignages d'horreur de cette nuit-là, mais aussi de voir l'impact, encore aujourd'hui, 6 ans après, sur le corps et l'esprit des rescapés, mais aussi des parents endeuillés. C'est très dur, mais en même temps, je pense que tous sont convaincus que c'est une victoire d'être arrivé à ce procès. Tous sont sans doute convaincus aussi que c'est important parce qu'il permet de rendre compte de l'événement dans sa globalité. On avait, et nous on le repérait dans nos études, une sorte de condensation mémorielle sur le Bataclan ou bien sur Paris quand on leur demandait quels sont les lieux du 13 novembre. Et année après année, on notait un effondrement des références, soit aux terrasses, soit au Stade de France. Là, manifestement, on voit réémerger ces lieux. Alors, il faudrait voir si ça a bien impacté dans les esprits des Français, on le saura bientôt. Mais je le pense, et c'est ce qu'attendaient en particulier les rescapés et les parents endeuillés, c'est de se dire mais qu'on n'ait pas la double peine pour ceux qui n'étaient pas au Bataclan, de se dire non seulement ils ont souffert ce qu'ils ont souffert, mais en plus on nous oublie. Et puis on voit aussi émerger des gens qu'on avait absolument, enfin qui étaient passés complètement sous les radars. Je pense à ce qu'on a appelé les oubliés du Stade de France. Et les oubliés du Stade de France, en particulier les 13 gendarmes qui étaient là, stationnés juste à côté de l'Evans. Donc ils se sont pris le blast, ils étaient à 20 mètres. Hein. Et en plus, ils ont été les premiers sur le corps de la seule victime civile de ces attentats du Stade de France, enfin le mort, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, qu'on a eu tendance à oublier d'ailleurs. Le choc a été terrible. Mais le problème, c'est que bon, ok, c'est des gendarmes, donc on peut se dire, ils vont pouvoir surmonter ce choc. Mais c'est que très rapidement, on les a mis à l'écart. Et en plus, après, ils ont été complètement évacués de cette histoire. Donc nous, on les a réintégrés dans la phase 3. Et surtout, ils ont pu s'exprimer lors du procès. Et on voit, parce que c'était très intéressant, comment le fait d'avoir été les oubliés de la mémoire collective et les oubliés par la population, mais aussi les oubliés de leur hiérarchie, qui heureusement a très bien réagi quand je les ai sollicités, cette hiérarchie-là, le général Rodriguez en particulier, qui est le directeur général de la gendarmerie. J'étais intervenu justement pour qu'ils permettent à ces gendarmes de témoigner pour ceux qui étaient encore dans l'activité. Il a été enthousiaste, donc on voit bien que côté de la hiérarchie, ça a bougé. Et donc on voit là une sorte d'illustration de ce qu'on pointe, nous, c'est-à-dire comment une mémoire de petits groupes qui n'est pas relayée dans la mémoire collective provoque des pathologies bien plus graves que chez des personnes qui ont vécu des situations équivalentes, mais dont l'histoire est connue et relayée dans la mémoire collective. Ils vont, on l'a vu au procès, ils vont bien plus mal, 6 ans après, que des personnes, y compris des forces de l'ordre, qui ont vécu des choses similaires. Et c'est vrai que de voir des gendarmes pleurer à l'audience, ça en a choqué plus d'un.
Sur la constitution de ce récit partagé et de la mémoire collective de manière générale, est-ce que, avec le temps, est-ce que cette mémoire se fixe ou bien est-ce qu'elle est toujours évolutive ?
La mémoire collective ne se fige jamais. La mémoire est dans l'histoire, elle évolue avec l'histoire, et en fonction du contexte, en fonction de la dynamique même de la mémoire de l'événement en question, ça bouge. Par exemple, la mémoire du 13 novembre, c'est une mémoire des victimes. Il y a plein de héros, au sens sociologique du terme. Hein. Ils ont fait effectivement des actes magnifiques, mais là je parle vraiment en termes de figure du héros quand on parle de figure de la victime. Il y a plein de figures de héros, les gens qui ont ouvert leurs portes, les gens qui sont descendus au-dessus de la belle équipe là, et qui ont tout de suite porté secours aux victimes. Au Bataclan même, ce qu'on oublie, les victimes elles-mêmes. Alors ils auraient pu marcher sur les autres sans se poser de questions à celui qui s'en réchapperait le premier. Il y a une multitude de gestes d'entraide dans l'horreur même. Les héros, on les voit, c'est aussi des policiers, comme les deux policiers de la BAC, Guillaume et Grégory, qui sont rentrés au Bataclan et qui, à 25 mètres, ont neutralisé un des 3 terroristes qui se trouvait, lui, sur la scène et qui mettait en joue un des spectateurs du Bataclan et qui allait le liquider. Et le fait d'avoir neutralisé ce terroriste a mis fin aux exécutions. Il y a plein de héros comme ça, il y a la BRI, il y a tout ce qu'il faut. Et pourtant, c'est la figure de la victime qui est la figure structurante. Là, ça commence à bouger avec le procès. Il est possible que, si vous m'interrogez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je vous dirai « Ah, ben la mémoire du 13 novembre, finalement, c'est un mixte entre la victime, la figure de la victime et la figure du héros. » Peut-être que ce que je repère, c'est-à-dire la construction d'un grand récit partagé, va s'étioler dans 5 ans qu'on va réinterroger nos témoins, ou qu'on va réinterroger la population française.
Pour terminer, quels sont les prochains rendez-vous avec le programme que vous menez ?
La singularité de ce programme, c'est d'essayer de recueillir des témoignages audiovisuels. Alors, il y a une partie écrite, mais l'essentiel, ce sont des témoignages audiovisuels pour qu'on puisse travailler sur les émotions, sur les comportements, sur les attitudes. D'autant plus qu'avec la révolution de l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire une analyse combinée du son, de la voix, de l'image, du texte. Donc on aura tout ça ensemble qu'on va pouvoir analyser de conserve. Mais pour donner une idée, c'est ce qui fait d'ailleurs que, même si ce n'est pas ce qu'on cherchait, mais enfin c'est une première mondiale. Sur la phase 1, donc de 2016, on a eu 1431 heures d'entretien audiovisuel pour 934 personnes. Donc en moyenne, une heure et demie par personne. Donc là, on a eu ces 934 et notre objectif, c'est d'en avoir un maximum qui revienne. On a eu un retour de 78%, tous les cercles confondus. En 2018, 78% de ceux de 2016 sont revenus. Ce qui déjà, nous disent les épidémiologistes, est énorme. Donc on arrive, avec les nouveaux, on arrive encore à 820 témoins. Et là, pour la phase 3, c'est encore plus spectaculaire. Sans doute aussi parce que c'est actualisé par le procès. Il y en a beaucoup qui sont revenus, ce qui fait qu'on a un très grand nombre de personnes qui ont témoigné trois fois déjà, ce qui permet de voir l'évolution de cette mémoire-là. Et on sera sans doute entre 950 et 1000 interviews en cette phase 3, ce qui est évidemment énorme, avec un gros taux de retour qui permettra une étude de comparaison entre les témoignages. Mais pour donner une seule idée de ce que ça signifie. Ça a pris énormément de temps de transcrire les témoignages oraux. On a commencé avec l'ordinateur et ensuite il a fallu corriger. Donc ça a pris vraiment énormément de temps, surtout qu'en parallèle, il fallait qu'on fasse le reste, entre autres lancer les phases suivantes. Eh bien, il faut savoir que les transcriptions des interviews de 2016 représentent 800 millions d'octets. 800 millions d'octets, c'est à peu près 800 millions de caractères. Si on se dit qu'une page de livre, c'est à peu près 2000 caractères, ça veut dire qu'on a en magasin, rien que pour 2016, l'équivalent d'un livre de 400 000 pages. Donc il y a de quoi faire. Nous sommes en train de terminer la phase 3 des entretiens et nous allons commencer toute la partie biomédicale avec l'étude du trouble de stress post-traumatique, IRM à l'appui. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a fait en phase 1, phase 2, ce qui nous permet de voir cette pathologie, comprendre cette pathologie singulière de la mémoire, qui est le trouble de stress post-traumatique, et très caractéristique évidemment de ce qui suit ces attentats. Donc de mieux comprendre ça, et en plus on a une étude au niveau de la molécule, on descend d'un étage en quelque sorte pour comprendre comment ça se passe. Sur le GABA allergique, bon, je ne vais pas développer, c'est le neurotransmetteur le plus présent donc, dans le cerveau, et on a une sorte d'effondrement de ces GABA allergiques au moment où il y a un trouble de stress post-traumatique. Donc il y aurait en plus des possibilités de repérer des thérapies dans la foulée, et puis on va s'intéresser, nouveauté aussi, à la transmission. Qu'en est-il de la résilience des enfants? Voilà, ça fait partie de nos projets comme prochaine étape. Et puis là, très concrètement, au mois de janvier 2022, nous sortons notre deuxième livre à partir de témoignages, qui était un livre sur les témoignages des policiers, différentes catégories, groupes de policiers qui ont été mobilisés et qui a été écrit par un historien des professions, Christian Chevandier, qui a travaillé à partir de 60 témoignages de policiers qu'on avait enregistré en 2016 en particulier.
Monsieur Péchanski, notre entretien s'achève. Au nom de l'équipe du CN2R, je vous remercie très chaleureusement pour cet échange approfondi. Je suis sûre qu'il aidera nos auditeurs et nos auditrices à saisir les enjeux multiples et complexes du procès des attentats du 13 novembre 2015. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de la série.
Merci beaucoup.